Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Ça va, tout va bien?
Nous sommes donc dans l'Esprit Saint aujourd'hui encore.
Oui, on essaie toujours d'être attaché à ce grand Esprit Saint qui nous anime. Alors on a vu les dernières fois que il était présent cet Esprit, l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, que les prophètes annonçaient une venue de l'Esprit Saint. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on peut percevoir cette présence de l'Esprit Saint d'une manière particulière ?
Alors, c'est clair que le temps inauguré par Jésus est comme une concentration supplémentaire du Saint-Esprit. On le sent, Jésus est sans cesse animé par le Saint-Esprit, poussé au désert, prophétisant, annonçant le royaume de Dieu, révélant l'intimité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est peut-être ça qui est le sommet de la révélation. Il le fait sous le souffle de l'Esprit. Et puis l'Église naissante, au pied de la croix, il y a comme le petit noyau autour de la Vierge Marie, de Saint Jean, des premières femmes qui sont là. Et c'est comme la conception de l'Église. Et puis l'Église naît pour de bon à la Pentecôte. Et puis elle rayonne. Elle se répand à travers le monde, les actes des apôtres. C'est une démonstration du Saint-Esprit à tel point qu'on l'a appelé parfois l'évangile du Saint-Esprit, les actes des apôtres. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une concentration, un développement, un déploiement, on pourrait dire, du Saint-Esprit à partir de la venue de Jésus dans la chair.
Très bien, donc il y a une vraie réalisation de cette promesse et on peut le sentir en relisant tout ce qu'on a dans le Nouveau Testament. Et est-ce que un premier personnage qui est touché par l'Esprit Saint d'une manière nouvelle ou particulière semble être Jean-Baptiste. Et ce Saint Jean-Baptiste, est-ce qu'il est de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament ?
Alors c'est très mystérieux, c'est un homme charnière, ça arrive d'être d'un côté et de l'autre comme un pont qui se fait entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que bon, Jean-Baptiste est inscrit dans le Nouveau Testament. Personne n'en parle explicitement dans l'Ancien Testament, sauf par voie prophétique. Jésus, d'ailleurs, il fait allusion à partir de cet Élie qui doit venir, et il fait bien comprendre à ses apôtres autour de lui que cet Élie qui doit venir de Matthieu 17, 10, 13, c'est bien Jean-Baptiste. Et donc, il fait un lien très fort lui-même, Jésus, entre la figure d'Élie et la figure de Jean-Baptiste, montrant bien qu'il y a une révélation plus forte qui se fait à travers la figure de Jean-Baptiste par rapport même à la grande figure prophétique d'Élie. Donc c'est très nettement une attache avec l'Ancien Testament. Mais d'un autre côté, Jean-Baptiste est dans les lignes du Nouveau Testament. Si vous demandez à un juif, est-ce que vous avez entendu parler de Jean-Baptiste ? S'il est fidèle à ses écritures, s'il est fidèle à sa Mishnah, il dira, non, j'ai jamais entendu parler de ce Jean le Baptiste, parce que c'est un personnage donc du Nouveau Testament, et le catéchisme au numéro 717 le dit bien, parut un homme envoyé de Dieu, il se nommait Jean. Jean est rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, par le Christ lui-même que la Vierge Marie venait de concevoir de l'Esprit Saint. La visitation de Marie à Élisabeth est devenue visite de Dieu à son peuple. Donc on passe très vite du maillon de Jean-Baptiste au maillon de la Vierge Marie, mais ça n'empêche qu'il faut quand même un peu s'arrêter sur la belle figure de Jean-Baptiste. Il est l'ami de l'époux, comme il dit lui-même. Il a une très très belle expression dans Saint Jean chapitre 3, lorsque il déclare à ceux qui l'interrogent à propos de son rôle, à propos du rôle de Jésus, « Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. » prodromos. C'est ça qui donne l'expression du prodromos de nos frères orientaux, c'est-à-dire celui qui est en avant du chemin, celui qui est le précurseur, on traduirait en français. Hein, celui donc qui est envoyé devant lui, et il ajoute qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux, telle est ma joie et elle est complète. Extraordinaire époux.
C'est pour ça qu'au numéro 719 du catéchisme de l'Église catholique, on dit qu'il est plus qu'un prophète.
Oui, certainement. Il y a dans cette expression de Luc, chapitre 7, verset 26, qui est rapportée dans ce passage du catéchisme de l'Église catholique, une allusion à cette amitié que Jean-Baptiste a avec Jésus. Ils sont d'abord cousins germains, il ne faut pas oublier, ils sont cousins de sang, puisqu'il est le fils d'Élisabeth, et il a tressailli de joie au moment de la visitation. C'est assez extraordinaire de penser ça, qu'il est encore dans le sein de sa mère Élisabeth, Jésus est dans le sein de la Vierge Marie au moment de la visitation, et il y a une sussultation, une exultation du Saint-Esprit dans le sein des deux mamans, et il y a, à travers l'opacité des corps, l'opacité des lieux où ils sont dans le ventre de chacune des mères, une reconnaissance extraordinaire, puisque les deux exultent, et les mères le ressentent, et les mères chantent leur joie de cette exultation qui se passe dans le silence, dans le secret de leur sein. Et donc, la grande caractéristique de Jean, plus qu'un prophète, c'est d'être l'ami de l'époux étant Jésus, parce que Jésus est venu épouser l'humanité. Et ces épousailles, ça va être des épousailles de sang. Hein. Bien sûr, il est époux de sang, comme dit le passage sur l'Exode, où on parle de Moïse comme un époux de sang. Eh bien, cet époux de sang, ça va être sa passion, parce que ses épousailles vont être des épousailles dans la croix, dans la crucifixion, pour racheter l'humanité perdue et en faire une humanité donc élue, une humanité rachetée, une humanité purifiée par ce sang de l'agneau.
Tous les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient le Messie, le Christ, mais comme si c'était une annonce de loin, Jean-Baptiste semble, lui, porté par l'Esprit-Saint et arriver à indiquer même du doigt Jésus, quand il le voit passer devant lui, il signale, il dit le voici cet agneau de Dieu. C'est pour ça aussi qu'on peut dire qu'il est à cette charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
Oui, effectivement, il y a une désignation très forte qu'on voit au chapitre 2, même premier de l'Évangile de Saint Jean, où Jean-Baptiste déclare aux deux premiers apôtres « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Et il ajoute « J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe, venant du ciel et demeurer sur lui. » Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit-Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. » Donc c'est très net, c'est vraiment le maillon le plus proche de Jésus qui le désigne, et qui fait que les apôtres vont suivre en toute confiance Jésus. Et il va y avoir cette première rencontre de Jean et de André qui vont se mettre tout de suite à la suite de Jésus, et qui fait comprendre en même temps que Jean-Baptiste est dans l'humilité du témoin, qui ne veut pas être plus que celui qui l'a chargé d'annoncer Jésus. Il veut diminuer, il veut s'effacer devant cet avènement, et il dira « Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre et terrestre, et parlant terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu, entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille. C'est-à-dire, il prophétise en même temps que ça va être difficile pour Jésus. C'est-à-dire que ce témoignage n'est pas évident. Déjà, Jean-Baptiste a ressenti l'opposition des scribes et des pharisiens, du monde du temple, de tout cet environnement des leaders de la religion juive de l'époque. Et c'est pas facile, il le sent, et il va sentir que ça va être encore plus caractéristique pour Jésus. C'est d'ailleurs ce que au temple Siméon avait prophétisé à propos de Jésus. Tu seras un signe, il sera, dit-il à sa mère, un signe de contradiction. Mais on peut le dire déjà de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a essuyé ses caractéristiques et d'ailleurs il périt tué par Hérode qui le met à mort. Hein. Donc son sang le fait entrer dans la liste des martyrs pour le Christ, martyrs de la vérité, martyrs éthiques en quelque sorte, et le fait passer d'une certaine manière au Nouveau Testament. Nous le célébrons parmi les saints du Nouveau Testament aussi.
Et pour c'est une grâce particulière, la grâce de l'Esprit-Saint d'être prophète, ou est-ce que tout le monde peut être prophète? Est-ce que le Jean-Baptiste, on le distingue d'une manière particulière d'autres personnages du Nouveau Testament on parle bien d'une forme de charisme, hein, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est un charisme spécial de prodromos, donc d'annonciateur. Les grands personnages dans l'Antiquité chrétienne se faisaient toujours précéder par quelqu'un qui les annonçait. Et on peut dire que Jean-Baptiste a reçu en plein ce charisme d'annonce de la bonne nouvelle. Il est héros, en quelque sorte, de cette bonne nouvelle qui vient avec Jésus-Christ.
Merci, frère Edouard.
À bientôt.